BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans Les Experts en direct sur BFM Business. Il est 9h passé de 32 minutes. On est ensemble pour une heure de débat et de controverses sur l'actualité économique du jour. Pendant que le gouvernement cherche encore où trouver les économies, les Français, eux, savent déjà où l'État a trouvé l'argent. Et oui, dans leur poche. Les chiffres sont saisissants. L'an dernier, les recettes publiques ont progressé de plus de 30 milliards d'euros. Et selon le projet de règlement du budget présenté cette semaine à l'Assemblée, plus de la moitié provient directement de nouveaux prélèvements ou de hausses mécaniques des impôts et cotisations. Alors soyons clairs, peut-on encore redresser les finances publiques sans augmenter massivement les impôts ? Ou sommes-nous en train d'entrer dans un quinquennat de hausse permanente ? Dans le même temps, les avertissements se multiplient sur la dette. Ray Dalio, fondateur du plus grand hedge fund du monde, Bridgewater, estime qu'une crise est désormais inévitable. Alors faut-il le croire ? Ou bien les marchés continueront-ils encore longtemps à financer nos excès ? Et puis il y a l'autre grande histoire économique du moment, l'intelligence artificielle. Des valorisations astronomiques à Wall Street, des milliards injectés dans les entreprises, des promesses de productivité inédites. Sommes-nous face à une révolution comparable à Internet ou à une nouvelle euphorie financière? Ce sera le dernier débat. Fiscalité, dette, intelligence artificielle. Trois débats, une même question. Comment financer la croissance de demain sans hypothéquer l'avenir? Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 33 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sylvie Cazenave-Perret. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Présidente du groupe Poisson Packaging. Face à vous Guillaume Dard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Président de Montpensier à Brevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Et Louis-Samuel Pilser. Bonjour Louis-Samuel.
Bonjour Raphaël.
Haut fonctionnaire enseignant à Sciences Po et Polytechnique. Alors je le disais, le premier débat, ça va être la question. 2025, c'était déjà le cas. 2026, ça continue. Et 2027, va-t-on subir encore un choc fiscal ? David Amiel réunit ce mercredi une grande partie du gouvernement pour faire un point sur les pistes d'économie possibles dans chaque ministère, à la fois pour cette année et l'année prochaine. Mais la réalité, Louis-Samuel, allez, je commence avec vous, c'est que ce sont surtout les impôts qui flambent. On a eu la loi de règlement présentée mardi à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, plus de 30 milliards de hausse d'impôts. La moitié, c'est la hausse naturelle grâce à la croissance. Mais il y a eu près de 16 milliards de hausse d'impôts nouveaux.
Oui, l'effort pour redresser les finances publiques, il est considérable. C'est une centaine de milliards d'euros d'économies à trouver sur les prochaines années, d'économies ou de recettes nouvelles. Donc il faut répartir cet effort entre des baisses de dépenses. Mais on voit, quand on analyse les propositions que font les gouvernements successifs tous les ans, que les projets de baisse de dépenses, il n'y a pas de recettes miracles.
Eh oui, hein, c'est compliqué, notamment à l'Assemblée, à chaque fois, dès qu'on en propose, c'est retoqué.
Exactement, et en fait, on voit aussi que c'est une succession de 1 milliard plus 1 milliard plus 1 milliard. Donc, on n'a pas une recette magique, un miracle qui permettrait de générer 20 milliards d'euros d'économie. Donc, en fait, on est obligé de gratter sur un peu tous les budgets, à la fois sur l'État, qui représente au final une faible part de la dépense publique et qui est à l'os à cause des 20 ans d'austérité qu'on a imposé à nos programmes.
C'est ça qu'on peut rappeler, Louis-Samuel, c'est que l'État, c'est quoi, 30-35% de la dépense publique. C'est sur l'État à chaque fois qu'on serre la vis, alors que le vrai morceau, c'est les dépenses sociales, plus de 60% des dépenses.
Exactement, les dépenses sociales avec à la fois les retraites et la santé, mais en fait qui progressent avec la démographie. Donc c'est des facteurs qu'on a un peu de mal à contrôler, donc on essaye de réduire telle ou telle dépense qu'on juge injustifiée ou trop importante. Notamment sur la santé, il y a un certain nombre de marges d'économie. Sur les retraites, on fait des réformes tous les 2-3 ans pour essayer de mieux répartir l'effort. Moi, je pense qu'il faut une refonte de notre système de retraite pour faire peser, permettre à la fois de mieux prendre en compte la pénibilité et de faire partir plus tôt ceux qui ont des carrières pénibles et dont l'espérance de vie est affectée également par cette pénibilité, mais en même temps en assumant de faire partir un peu plus tard les cadres supérieurs qui n'ont pas de problème à travailler quelques années de plus. Donc je pense que cette refonte de notre système de retraite, c'est un volet qui sera incontournable en 2027.
Le grand sujet de la présidentielle.
C'est le principal sujet. Et les dépenses locales également, qui sont un des principaux vecteurs d'économie, puisqu'il faut aussi rappeler que les lois de décentralisation successives ont conduit à une inflation énorme des dépenses locales. Quand on a créé les intercos, quand on a renforcer leur mission.
Parce que les comptes s'améliorent des collectivités locales quand même. J'ai deux chefs d'entreprise sur le plateau, Sylvie Cazenapéré et Guillaume Dard.
C'est qu'on n'a pas de guerre en Europe, c'est déjà ça. Parce que sinon, on retombait dans la situation dans laquelle on est des finances publiques, probablement non pas dans la banqueroute des deux tiers de 1797, mais dans un événement complètement oublié de l'histoire de France, qui est les 15 dernières années du règne de Louis XIV, où la France a été complètement en cessation de paiement.
La banqueroute.
Une banqueroute quasi complète. C'est pas par gentillesse que Louis XIV a fondu la vaisselle d'argent de Versailles, parce qu'il n'y avait plus de monnaie en France. Et deuxièmement, c'est là où on a mis un impôt pour tout le monde qui s'appelait le dixième. C'est intéressant parce que c'est à peu près le niveau de la CSG. Et on est reparti pour ça. La seule chose, c'est que notre modèle est complètement bloqué, même si, effectivement, on peut dire l'État a subi une cure d'austérité. Globalement, essentiellement grâce aux dépenses sociales, on a quand même des dépenses publiques de l'ordre de 57% du PIB, ce qui quand même est à peu près l'équivalent d'un pays très socialiste, que donc ce système ne peut plus fonctionner, surtout à l'heure où, on va en reparler après, on est extraordinairement endetté, que les taux d'intérêt peuvent monter et qu'il y a une révolution industrielle dont on ne connaît pas tout à fait la portée, qui est l'intelligence artificielle, donc tous les petits patchs, d'ailleurs qu'on a enlevé les patchs, parce qu'on disait on a fait des réformes des retraites, on a enlevé le patch.
Eh oui, là, elle est mise en pause pour l'instant.
Et donc, je ne vois pas comment on peut s'en sortir et qu'on échappe à un grand reset.
Ça va être les entreprises de Dindon la farce, Sylvie Cazenave-Perret, au final.
Je ne vais pas dire comme d'habitude, parce que les entrepreneurs, ils sont contraints à l'efficacité. Un euro investi, il doit rapporter quelque chose.
Eh oui.
On doit investir dans nos futurs développements, dans l'IA, vous l'avez cité tout à l'heure, mais cette contrainte à l'efficacité nous laisse stupéfaits lorsque on entend les discours constants, permanents, ce qui vient d'être dit est parfaitement exact, sur la croissance de l'impôt, sur l'élimination quasi, ou l'impossibilité, où on est totalement désarmé devant la croissance des coûts, des charges sociales. Et nous, on apporte des solutions dans nos entreprises. C'est peut-être plus facile, mais c'est pas toujours facile aussi d'imposer des solutions sur l'augmentation de la durée du travail, l'amélioration de l'efficacité au travail, ce qui n'empêche pas la réduction de la pénibilité.
Eh oui.
On doit gérer tous ces éléments et on essaie de le faire. Et on a du mal à comprendre, de notre point de vue, comment il est encore possible, parce que 80 milliards, c'est quelque chose, mais le budget global des dépenses, c'est 1 500 milliards à peu près.
On est même à 1 700 milliards.
1 700 milliards. Ben oui. Donc, ça nous paraît totalement epsilon sur l'enjeu qui est le nôtre. Et c'est tellement dégradant. Vous avez cité tout à l'heure que les auditeurs, nos compatriotes, ils sont totalement démunis, désarmés, ils sont perdus. Oui. Et nos salariés
surtout
le sont.
Personne n'y comprend rien, ce qui permet
on n'y comprend rien. On voit l'inefficacité partout dans les événements très récents. Au niveau de notre système judiciaire, on est totalement effaré. On ne comprend pas.
Le point de Sylvie est excellent. Il y a un problème d'inorganisation. On a rajouté du personnel dans tous les sens. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires sont formidables, mais enfin, on en a rajouté combien entre les fonctionnaires nationaux, territoriaux, etc. Un million. Et effectivement, on voit que le système craque de toutes parts, puisque les scores de l'éducation, du classement PISA, effectivement, on parle des délits et de la sécurité, et il y a un système qui marche bien, d'ailleurs, c'est effectivement c'est Bercy.
Oui.
Mais globalement, le chef d'entreprise, et Sylvie a vraiment raison, se sent complètement démuni de dire on sent qu'il n'y a pas de réorganisation, on sent qu'on est...
mais il n'y a pas de contexte politique aussi en même temps.
On est dans le sapeur camembert, on creuse un trou, et puis alors il faut mettre la terre quelque part, et on creuse un autre trou pour remettre la terre quelque part. Et c'est là où on se dit, il y a quand même un sujet de réorganisation globale, et d'efficacité. Et probablement c'est lié aussi au droit, qui fait qu'il y a beaucoup de contraintes, que les fonctionnaires ne peuvent sont bien obligés de respecter la loi. Et là, on arrive à nos sujets de contraintes réglementaires, de cette espèce de délire normatif et réglementaire qui d'ailleurs, dont la courbe correspond exactement avec celle de la dette. Vous l'avez déjà vu, Raphaël ?
Oui.
Il y a cette courbe incroyable. Ah oui. Plus il y a de normes, plus il y a de dettes.
Bah oui. Louis Samuel, un dernier mot là sur les collectivités locales. Guillaume Dard évoquait le nombre de fonctionnaires, l'inflation du nombre de fonctionnaires. Ça a été particulièrement vrai dans les collectivités locales, hein, ce que vous citiez tout à l'heure, la superposition des strates, encore une fois, administratives.
C'est intéressant parce qu'on a créé les intercos à la fin des années 90 et on a multiplié, enfin on a renforcé peu à peu les compétences des collectivités. Et ce qu'on voit, c'est que en 20 ans, on a eu une augmentation d'à peu près 100 000 du nombre de fonctionnaires dans le bloc communal entre les communes interco. C'est-à-dire qu'en fait, on a transféré des compétences, mais on n'a pas transféré les effectifs. Et donc, on a créé des doublons de compétences un peu partout.
Ce qu'on vous dit, c'est que souvent, c'est la faute à la décentralisation. On a eu des lois de textes de décentralisation. Il fallait bien des fonctionnaires pour assumer ces nouvelles fonctions.
C'est une part importante du problème. En fait, il y a un rapport récent, qui est le rapport Ravignon, qui chiffre à 7,5 milliards le coût de l'enchevêtrement des compétences. En fait, ils ont regardé le temps que passent les fonctionnaires dans des instances de coordination, à discuter avec leurs homologues qui font à peu près la même chose. Ils tombent sur 7 milliards.
Et donc, les économies potentielles hein, sur la sphère des collectivités
locales. Sauf que c'est
très
long à faire. C'est très difficile. C'est des jobs, c'est des pouvoirs locaux et tout le monde a envie de garder ses pouvoirs et qu'on n'y arrive pas. Et probablement, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une grande crise pour en sortir.
Hein. Sylvie Cazaferré, on en avait discuté la dernière fois. Oui. Vous bossez bien au niveau local quand même.
Nous, on travaille très bien au niveau local. Mais ce qu'on observe, alors on a des collectivités qui sont extrêmement réactives. Ça, il faut le souligner, qui sont proches de leurs entreprises, proches du terrain. Et ça, la décentralisation a apporté cette plus-value-là. Ça, c'est très important pour les entreprises, pour l'aménagement du territoire, l'aménagement des zones industrielles. On en a parlé tout à l'heure sur un dossier qui a touché le Sud-Sarthe avec une désindustrialisation massive d'un groupe papetier qui est parti et que voilà, tout le monde s'est uni pour réindustrialiser ce bassin et redonner du travail aux personnes qui sont en Sud-Sarthe, qui est un endroit de la Sarthe qui est très touché. On a ces collectivités qui sont extrêmement efficaces. Et en même temps, on a une multitude de propositions de la part de ces collectivités, mais pas que, d'organismes divers, eh oui, qui visent à nous apporter une aide que nous, on ne demande pas forcément tout le temps. Et ce que plaident les chefs d'entreprise tout le temps, c'est alléger nos frais de structure, c'est-à-dire nos coûts récurrents. Alors, on le réclame sur les salaires, ça c'est l'arlésienne, parce que moi, je travaille depuis un peu plus de 40 ans, maintenant 45 ans, et on réclame toujours la même chose. Pourquoi ? Parce que nos clients, nous-mêmes, on s'est internationalisé, oui, on travaille dans d'autres pays, et on voit que d'autres pays vont être plus efficaces en termes d'offres, de sécurité, de santé, d'éducation, que nous, avec des coûts salariaux moindres. Comment font-ils ? Comment réussissent-ils ça nous paraît presque magique.
C'est des exemples à suivre.
Oui, donc, le génie français.
Souvent, le temps de travail n'est pas plus long dans l'année, mais dans le temps. Les étudiants étudient moins longtemps. Ça, on n'en parle pas tellement souvent, mais c'est vrai que...
C'est une question récurrente que j'ai, moi, sur mon compte Twitter. Hein. Pourquoi on travaille aussi longtemps ? Les études sont-elles aussi longues ? Est-ce qu'il ne faudrait pas les raccourcir ?
Le concept du Master 2 me semble absolument idiot.
Faire rentrer plus rapidement sur le marché du travail.
On a eu des améliorations, puisque aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, on accueille beaucoup de jeunes étudiants qui sont en alternance chez nous. Donc ça, ce sont des choses... C'est l'acculturation au milieu de l'entreprise, c'est très bien. Mais on a besoin d'efficacité sur tout le long de la chaîne. Et peut-être que, plutôt que de chercher des économies juste financières, traquer l'inefficacité. Parce que de l'inefficacité, si on arrive à la maîtriser, à la réduire, on aura de l'efficacité. Et de l'efficacité, c'est ce qu'attend tout le monde, on aura des économies. C'est comme ça qu'on fait hein, en entreprise. Hein. On ne dit pas on coupe les têtes. Hein.
Voilà.
Ça, c'était à la Révolution. Aujourd'hui, on dit comment on peut être plus efficace.
Tout ça avec un objectif qui est de limiter la dette qui croît encore. Il y en a un qui a tiré la sonnette d'alarme au niveau mondial. Hein. C'était hier une interview passionnante dans Les Échos. Ray Dalio, le fondateur d'un des plus grands hedge funds du monde, Bridgewater, qui explique... Alors lui, son diagnostic est... somme toute assez brutal. Je ne vois aucun moyen d'éviter une crise de la dette. Voilà ce qu'il nous explique. Est-ce qu'il faut prendre cet avertissement au sérieux ?
Il faut prendre Ray Dalio, qui est un homme très réfléchi, très au sérieux. Et en même temps, ça fait assez longtemps qu'il l'annonce. Et donc, Et beaucoup de gens.
Il fait partie des Dr Doom, ce qu'on dit, hein, qui annonce régulièrement les. Mais vision un peu apocalyptique. Bah oui, ça n'arrive pas pour l'instant.
Il a une capacité à quand même comprendre les marchés financiers qui lui ont valu de créer un des plus grands fonds d'investissement au monde avec une centaine de milliards. Il a vu prodigieusement le développement de la Chine. Mais ce qu'il explique, c'est que on a eu cette vague de. En fait, les démocraties ont été obligées d'augmenter la taille de leur État-providence. Parce qu'on parle beaucoup de la France, mais si on regardait la Grande-Bretagne,
c'est toutes les démocraties
on est à peu près dans la même solution. Dans la même situation, les États-Unis sont également dans la même situation, mais avec le dollar, ils peuvent jouer un peu différemment. Mais enfin, ils sont dans la même situation. L'Italie, les grands pays européens, il n'y a que l'Allemagne qui est un peu mieux gérée et qui n'a pas encore ce sujet de dette. Et on a profité pendant une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, postérieurement à la grande crise de 2008, de taux d'intérêt incroyablement bas qui ont fait que le coût de la dette...
L'argent ne coûtait plus rien.
...était devenu bas et...
On faisait des économies. Plus la dette progressait, plus on faisait des économies sur la charge d'intérêt. Taux très
bas. Alors, on aurait dû, probablement, les États auraient dû profiter de cette phase de taux bas pour emprunter à très longue durée, et il semble qu'on ne l'ait pas vraiment fait.
On a allongé la durée quand même, la duration de la dette française est passée de 7 ans à 8 ans et demi à peu près.
Pas tant que ça, parce qu'à la limite, il fallait faire du 20 ans. Hein, si vous aviez des taux à 0,5, pourquoi s'arrêter de 7 à 6, c'est exactement le chiffre, c'est très bien, on est dans le bon sens, mais il fallait aller jusqu'à 20 ans. Je veux dire, si l'argent valait rien, un chef d'entreprise, s'il avait pu emprunter, regardez ce que dit, regardez le sourire de Sylvie.
Vous allez nous expliquer.
Si elle avait pu emprunter à 20 ans à 0,50, elle l'aurait fait. Ouais. Donc, on aurait pu le faire un peu plus. Et maintenant, on est dans un moment, on a eu une première crise inflationniste il y a 3 ans, et ce que personne ne sait, c'est si les prix du pétrole vont rester élevés et si l'IA, pour commencer, est un deuxième facteur. Il y a un jeu de mots en anglais qu'on ne peut pas tout à fait faire, mais c'est inflation IA sioniste, puisque ça fait monter les prix des semi-conducteurs de façon très importante. Pour donner un exemple pratique, hein, ce n'est pas de la théorie, il est probable que le PC à 500 euros, c'est fini.
Oui.
Et qui va passer peut-être à 700, peut-être à 1000. Et donc là, vous avez un effet inflationniste. Si vous avez cette deuxième crise inflationniste, les taux ont déjà remonté, mais on pourrait revoir les taux d'avant 2007-2008, remonter à 2006, et avoir des taux à 6%, 7%, 8%. Donc vous imaginez qu'avec des taux à 7%, 8%, on ne dit pas que ça va se faire, et on espère bien parce que ça ne se fera pas, parce que ça va être une catastrophe.
Ça va nous coûter cher.
Mais c'est possible, et là, on est à la limite du système.
Alors,
c'est exactement ce qu'on a fait, ce que vous indiquez. Quand les taux étaient faibles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à travailler sur notre transition énergétique, on a intégré des plateformes logistiques à notre site de production, on a organisé l'alternative au plan financement de notre énergie, et on l'a fait sur des temps, on a refinancé complètement notre dette sur le bâtiment, sur l'exploitation, et c'est complètement exact, c'est-à-dire on a une telle compréhension de la culture cash à l'intérieur de l'entreprise. Une entreprise, ce sont des flux de cash.
Et, oui.
Et donc, si on ne comprend pas ça, on se laisse complètement étrangler par une dette court terme. Et ça, c'est juste pas possible, parce qu'un étranglement de dette court terme, c'est Louis XIV que vous citiez tout à l'heure, qui fond la vaisselle, l'argenterie du pays. Donc, c'est complètement délirant. Et ça, cette vision, cette agilité qu'on arrive à avoir dans nos entreprises, que certaines plus grosses organisations arrivent à avoir, on souhaite très bien que nos gouvernants l'aient également.
C'est le cas ou pas, Louis-Samuel ? Guillaume Dard est assez critique sur la gestion des flux de trésorerie, on va les appeler comme ça, hein, de l'État français. C'est un autre niveau aussi que les entreprises, il faut le dire. L'Agence France Trésor, qui est logée à Bercy, est reconnue pour avoir une certaine expertise, plutôt saluée normalement. Donc, est-ce qu'on gère bien ou pas ces flux de trésorerie au niveau public de l'État ?
Je comprends que l'Agence France Trésor avait quand même assez peu anticipé la hausse brutale des taux d'intérêt récentes. Ensuite, ce qu'il faut rappeler concernant cette question de la dette, c'est que une entreprise qui réalise un déficit, elle s'endette. Un État qui réalise un déficit commercial, in fine, il s'endette. Enfin, l'État s'endette, ou les particuliers s'endettent, ou les entreprises s'endettent. Ce qu'on appelle les déficits jumeaux en économie.
Oui.
Un État, une nation qui a un déficit commercial, a également un déficit public le plus souvent.
Budgétaire, oui.
Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que l'Allemagne est plutôt une bonne situation financière, alors que les États-Unis et la France sont au bord de la crise. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas à inverser, enfin, à sortir de cette crise de la dette. Effectivement, là, on arrive au bout d'un cycle. Enfin, on voit que les niveaux d'endettement de la France, des États-Unis et de différents États qui sont dans la même situation que nous sont plus soutenables.
Donc, mais est-ce que c'est pas ce qu'on dit depuis 20 ans ? Je me souviens du rapport de Michel Pébrot au début des années 2000.
Ben, on aurait mieux fait d'écouter un peu plus.
Sur les 1000 milliards de dettes, on est à 3500 et puis la France
continue
de tourner finalement, Guillaume Dard.
S'il y a de la dette, ça veut dire qu'il y a de l'épargne. Bon, traditionnellement...
Il y a beaucoup d'épargne en France.
Non, mais pas qu'en France, dans le monde, parce que la moitié de la dette française n'est pas détenue par les Français. Donc, ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet global. Avec tous les fonds de pension qui ont été créés dans le monde entier, il y a un besoin d'investir. Et donc, vous investissez ces fonds de pension, ils investissent en actions d'un côté, en obligations de l'autre, et traditionnellement, ils prennent une grosse partie d'obligations parce que c'est un peu moins volatile que les actions. Et dans l'histoire du monde, normalement, tous les 30 ou 40 ans, il y a une espèce de guerre mondiale ou des révolutions qui détruisent l'épargne. Et là, heureusement, Dieu nous préserve, on n'a pas eu cette guerre mondiale. Donc, cette colonne d'épargne, elle est énorme. Donc, elle absorbe la dette qui est émise. Alors, c'est un espèce de couple mi-vertueux, mi-infernal. Parce qu'il est vertueux parce qu'il permet qu'on ne soit pas dans une faillite globale.
Oui.
Il est infernal parce qu'il permet aux États de s'affranchir des contraintes qu'ils avaient normalement. Et puis, si vous rajoutez à ça la dimension de l'euro, pour la France,
oui,
c'est que auparavant, il y avait un rappel qui était le cours de change du franc.
Oui.
C'est-à-dire que quand on faisait beaucoup de bêtises, on était obligé de dévaluer et c'est ce qui a obligé, on en a souvent parlé ici, en 83, après la troisième dévaluation lors du premier septennat de François Mitterrand, quand on avait fait plein de bêtises dans tous les sens, on avait eu trois dévaluations et Helmut Kohl avait dit à François Mitterrand « Mais alors, vous voulez rester avec nous ou pas, François ? Parce que oui, si vous voulez rester, il faut être plus sérieux. » Et donc, on avait inversé le principe, c'est-à-dire qu'on était revenu vers une attitude plus libérale, pas complètement libérale, mais enfin, plus rigoureuse budgétairement et plus libérale pour les entreprises. Et on a eu, dans les années 80, ça a été formidable, la deuxième partie des années 80, la France, qui avait compris qu'elle était face au gouffre, était repartie dans le bon sens. Et puis après, à partir de 2000, on a refait toutes les bêtises possibles.
Bon, ce que je comprends, c'est que le sujet, puisqu'on a un équilibre entre l'épargne massive et la dette, c'est les politiques qui ne font pas leur boulot, en réalité, au sein des États. Non, c'est ça la conclusion.
Non, c'est que c'est facilité par cette... Enfin, c'est une facilité trop tentante pour un politique. Si vous êtes allé à Pompéi, ou pas, Raphaël ?
Je ne suis pas allé à Pompéi.
Bah alors,
j'avais projet d'y aller cet été, figurez-vous.
Il y avait une urne qui était à mon édile, et il y avait eu des dépenses énormes. Depuis qu'il y a des démocraties, il y a une tentation pour les personnes élues de faire de la dépense. Donc c'est éternel.
Oui. Bon, un mot qu'attend de la BCE, Louis Samuel. Là, on a quand même une semaine importante qui arrive à la fois la BCE jeudi, la Fed vendredi. Avec ses pressions inflationnistes, on attend...
Alors c'est intéressant parce que Trump a remplacé le gouverneur de la Fed.
Kevin Warsh,
de la Fed. Auquel, de ce qu'on comprend, il a plus ou moins demandé de baisser les taux,
oui,
en contrepartie de sa nomination. Et donc, disons que les décisions de la Fed cette semaine sont regardées d'assez près, mais tous les économistes sont plutôt alignés sur le fait qu'on ne peut pas baisser les taux aujourd'hui aux États-Unis et qu'il faudra même plutôt les monter si on veut respecter les mandats.
Il y a de l'inflation et le marché de l'emploi se porte bien.
C'est ça. Donc en fait, vis-à-vis du double mandat qu'a la Fed, qui est à la fois de soutenir la croissance mais aussi de maîtriser l'inflation, le plus probable c'est que les taux ne bougent pas. Alors qu'en Europe, le seul mandat de la BCE, disons le mandat principal, c'est de réguler
l'inflation.
Stabilité
des prix.
Et donc malgré le fait que la France, la zone euro, rentre dans une période de récession, puisqu'on a un premier trimestre de croissance négative. Et, enfin, disons que tout porte à penser, enfin, tout laisse penser que le prochain sera dans la même situation.
Risque d'être un peu compliqué, oui.
Qu'on risque d'annoncer la récession et en même temps de monter les taux.
Oui.
Donc, on devrait passer, augmenter de 25
points
de base.
On perd un peu la tête, non ?
C'est un petit goût de 2011.
Et
ça avait été, l'été 2011 avait été très sombre. Jean-Claude Trichet, qui
très
est un
critiqué,
homme très réfléchi, avait sûrement une bonne raison d'avoir pris avec son conseil, il ne la prenait pas tout seul, cette décision. Néanmoins, Derrière, on avait eu cet été abominable et puis des inquiétudes. D'ailleurs, sur la dette, vous vous souvenez des rencontres Sarkozy-Merkel, oui. En disant mais comment est-ce qu'on va faire ? Puis à l'automne, Berlusconi avait été renvoyé par les Européens parce que la dette italienne s'était envolée. Donc c'est toujours dangereux de monter les taux. On comprend pourquoi ils veulent le faire, parce que l'inflation, elle est basse en France, mais un peu plus haute dans le reste de l'Europe. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un mandat qui est de lutter contre l'inflation. Aux États-Unis, il va falloir qu'ils soient incroyablement talentueux, Warsh, parce que d'abord, les débuts de mandat des patrons de la Fed sont toujours très difficiles. C'est-à-dire que même le génie de Greenspan, il a commencé tout de suite par avoir le crack de 87. Mmh. Bernanke a beaucoup souffert, Yellen a beaucoup souffert. Et Jay Powell, son premier mandat, ça a été très difficile au début. Donc, ils font un talent incroyable avec cette contrainte politique qui vient d'être appelée. Et il ne peut pas le faire, il ne peut pas, parce qu'on est à peu près, sur les trois dernières années, à 3,5-4% d'inflation aux États-Unis. Donc, c'est deux fois la limite annoncée. Donc, il ne peut pas. Et d'ailleurs, les marchés pensent qu'il ne montera pas les taux cette fois-ci, mais qu'il les montera à l'automne. Et alors là, s'il baissait les taux, mais ce serait une surprise absolument incroyable, mais ce serait un signal de
mouvement inflationniste. C'est le test, hein, c'est le test de l'indépendance vis-à-vis du président américain. Hein.
Vous imaginez dans les entreprises entendre le contenu des échanges ici autour de cette table, dans ce studio, et se dire, est-ce que j'investis ? Est-ce que je recrute ? Ouais. Qu'est-ce que je fais ?
Quel environnement ?
Les entreprises, vous l'avez dit, ça a été très difficile, début d'année assez catastrophique pour tout le monde. Des hausses de partout, des clients qui prennent pas les hausses, des clients dont la situation économique se fragilise pour plein de raisons. Des impayés, les tribunaux de commerce qui sont envahis, parce qu'on a un regain quand même d'entreprises ou de dirigeants d'ailleurs, qui, lassés par la situation, n'arrivant pas à transmettre leur entreprise, décident tout simplement de l'arrêter. Donc on est quand même dans un contexte extrêmement anxiogène qui fait que dans les entreprises, pour pouvoir investir, recruter, on a besoin de vision et de stabilité. Et là, on est totalement dans un univers désorganisé.
Ben oui.
Où on voit
la politique française, tout va bien, ça vous êtes rassuré, non ?
Alors on attend. Alors c'est vrai que les chefs d'entreprise se disent peut-être à tort que attendons les élections.
Mais c'est long quand même.
Et exactement, c'est très long, mais on y est. Dans un an, on y est.
Bon. Un an pour un chef d'entreprise, c'est long.
Oui, mais c'est moins pire que ce
les entreprises en tenue jusqu'à maintenant tiendront encore pour un an. Et puis un dernier élément qui vient disrupter l'entreprise, c'est l'IA. L'IA qui provoque quelques secousses sur les marchés, on en parle dans une minute. Et puis l'IA qui disrupte aussi l'entreprise. On va voir comment elle commence à absorber très concrètement dans les process. Est-ce que ça change pour les collaborateurs et les chefs d'entreprise ? Ne quittez pas, on se retrouve dans une minute.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business. BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, les 10h passées de 2 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts. On a encore une demi-heure de débats, de controverses ensemble avec autour de la table Sylvie Cazenave-Perret, présidente du groupe Poisson Packaging, Guillaume Dard, président de Montpensier à Brevel et Louis-Samuel Pilser, haut fonctionnaire enseignement à Sciences Po et Polytechnique. On va parler d'IA dans cette seconde partie d'émission. On va commencer par les marchés, donc je vais commencer avec le financier Guillaume Dard, mais... Bon, on a eu l'explosion des valos, des prévisions, là, depuis une semaine. Anthropique, près de 1 000 milliards de dollars. OpenAI qui lance son IPO. SpaceX qui prépare la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. C'est vendredi. Et ça secoue pas mal les marchés, tout ça, Guillaume. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces valorisations, là ? Est-ce qu'on est dans une juste valorisation ou est-ce qu'on est reparti les délires qu'on a pu connaître au début des années 2000 autour de la tech?
En théorie économique et sur les marchés financiers, il existe ce qu'on désigne par l'effet Gartner. C'est-à-dire que les marchés surestiment à court terme le choc de productivité que va provoquer l'arrivée d'une nouvelle technologie et ensuite la sous-estiment.
Donc on se trompe à chaque fois.
Mais c'est à la fois normal de se tromper, c'est-à-dire que nos esprits cartésiens voudraient que les choses soient tout de suite à leur juste prix. D'ailleurs, les jardins de Versailles, on a voulu qu'ils soient tout droits alors que c'était un grand marais, et regardez les jardins anglais. Le marché, à quoi ça sert? Et comme ça n'est pas dans la psyché française, il faut le répéter. Le marché, c'est un système de tâtonnement pour trouver le juste prix.
Oui.
Le marché donne les informations...
valoriser les bénéfices futurs.
...sur le prix des choses. Depuis Hammurabi, les gouvernements ont toujours voulu essayer de dire « je vais fixer les prix moi-même parce que c'est trop le désordre, etc. » Non, le marché, c'est un tâtonnement de prix. Donc, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que ces technologies vont bouleverser le monde, que ça soit le spatial, l'IA, la numérisation, les robots, les humanoïdes qui arrivent. On ne sait pas à quelle vitesse, est-ce qu'il y en aura 1 milliard dans 5 ans ou 100 millions. Ce ne sera pas tout à fait la même chose. Vous avez vu les robots installés dans l'usine Renault
vient d'annoncer 350 robots humanoïdes.
Donc, on a trois nouvelles vagues technologiques d'une importance extrême et qu'on a du mal à calibrer. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui disent est-ce que ça va être 1%, 2%, 4%, 5% de productivité dans les 10 années à venir. Et le marché ne le sait pas. Le marché essaye de mettre un prix. On a probablement le plus grand génie du début du 21e siècle, même si c'est un personnage qui, personnellement, n'est pas extrêmement sympathique, qui est Elon Musk, mais c'est quand même le plus grand génie qui soit, parce qu'il avance sur tous les domaines à une vitesse d'exécution absolument prodigieuse. Et ça fait à peu près 6 mois qu'il chauffe tout le monde en expliquant qu'on va envoyer les data centers dans l'espace, qu'on pourra... On lui dit, il faudra quand même beaucoup de fusées. Il dit, oui, ça fera une fusée toutes les heures qui partira. Et donc, les perspectives qu'il annonce sont tellement extraordinaires et qui naturellement ne se dérouleront pas exactement comme il le décrit, peut-être avec un délai plus long, mais il y a des changements tels que le marché essaie de presser. Alors, il y a deux choses. Un, c'est pas anormal ce qui se passe, mais deux, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et l'équilibre des marchés, il repose sur le fait qu'il a reposé notamment la croissance du marché américain sur le fait que les très grands hyperscalers, c'est-à-dire Microsoft, Google, etc., rachetaient en permanence leurs propres titres. Et maintenant, Google émet des titres.
Ce qui fait peur un peu, toutes ces participations croisées.
Et donc,
croisées,
on peut avoir un... Non, mais c'est pas que les croisés, ils émettent du papier, c'est-à-dire qu'on va demander de l'argent à l'épargne, et donc ça peut provoquer des déséquilibres de marché. Et si ça se marie avec une hausse des taux d'intérêt... C'est un moment qui peut être difficile, mais peut-être que la productivité va monter très vite.
Comment on regarde l'enseignement à Sciences Po et Polytechnique de ces milliards et milliers de milliards qui virevoltent, avec inquiétude ou pas?
Autant je comprends la valorisation de OpenAI et Anthropic, autant SpaceX, j'avoue que j'ai été surpris par le niveau du multiple. Enfin, on est sur quasiment 100 fois le chiffre d'affaires. Oui. Enfin, c'est complètement délirant. D'autant plus que le pari technologique, il est... on peut dire risqué, on peut dire délirant, mais les data centers dans l'espace, juste après que XAI ait fait flop, c'est quand même... Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça, l'IPO, selon les informations qui ont été communiquées cette semaine, serait déjà sur...
Il faut en être, non ? Il n'y a pas un effet aussi marketing ?
Non, mais d'abord, parce que SpaceX, ça n'est pas que l'espace. Il y a aussi l'intelligence artificielle est en partie dedans, les robots sont partis dedans, il y a une relation avec Tesla qui est assez subtile, et donc c'est un ensemble d'optionnalités sur beaucoup de technologies. Ça, là où vous avez raison, c'est que si c'était que l'espace, c'est vraiment trop cher.
Mais sur l'espace, autant l'espace est une activité rentable, viable, autant le reste, ça me semble extrêmement risqué. Et c'est un pari qui,
c'est pour ça qu'il ne se passe rien en Europe. Nous, il ne se passe rien en Europe parce que tout est risqué. Et aux États-Unis, ils prennent du risque, ils sont fous. Mais c'est eux qui font avancer. Nous, on ne peut rien faire.
Sylvie.
Alors, c'est très intéressant ce débat parce que j'ai lu l'été dernier la biographie de Walter Isaacson d'Elon Musk.
C'est formidable.
Je vous invite à partager cette lecture parce que on voit le caractère absolument visionnaire, effectivement un peu fou, mais en même temps totalement extraordinaire. Et sur SpaceX, ce qui a été fait, c'est complètement dingue. Il a l'histoire derrière lui. Contrairement à OpenAI ou à Anthropic, l'histoire a parlé pour lui. Il apporte les preuves sur le marché. Quand il introduit SpaceX en bourse, il apporte la preuve sur le marché. Et donc, le marché, c'est la confiance.
70% des satellites en l'air, c'est
à lui. Donc, le marché, c'est la confiance. Souvenez-vous, au début du conflit russo-ukrainien, c'est son intervention qui a permis à l'Ukraine de réagir à l'agression russe. Donc, ça, c'est quelque chose d'absolument formidable, je trouve, sur l'intelligence artificielle à appliquer à nos entreprises. Nous, évidemment, on est sur ces sujets. Je pense que ce qui va vraiment faire la différence... Et ce qui va pouvoir nous dire c'est rentable ou pas, c'est la qualité des données qu'on a. Oui. On exploite déjà. Parce que si on ne fait pas le ménage dans ces données, si les entreprises, il va y avoir deux types d'entreprises. Celles qui auront déjà eu l'histoire pour elles, avec des données agrégées longtemps. Je disais tout à l'heure, je partageais qu'on a publié notre, je ne sais plus, 16e bilan carbone. Donc, on a agrégé des données. Quand on agrège des données, en fait,
c'est, tracking record,
c'est très
quoi.
Important.
Est-ce que vous avez su délivrer ou pas?
Voilà. Et c'est comme ça qu'on vérifie. Donc, on a un an d'agrégation de ménage, un an d'épreuvage, c'est-à-dire qu'est-ce que donne l'IA sur les process sur lesquels on a décidé, nous, de qualifier l'IA.
Ça, on va y venir au sein
et
de l'entreprise.
Et puis, le troisième, c'est est-ce que c'est rentable? Donc, on ne va pas immédiatement analyser la rentabilité
de l'effet Gartner.
Voilà, et donc c'est exactement ce que vous disiez, et j'apprécie beaucoup votre analyse, c'est parfaitement intéressant, parce qu'en fait, il y a un petit temps quand même dans les entreprises, même si elles s'en emparent tout de suite, pour pouvoir identifier l'efficacité de nouveaux protocoles.
Est-ce que la grande différence avec la bulle tech, à laquelle on fait beaucoup référence, hein, et cette comparaison qui fleurit en ce moment, c'est ce que vous disiez, Louis Samuel, c'est le chiffre d'affaires tangible, les revenus récurrents. Je rappelle, hein, OpenAI, c'est quand même 25 milliards, d'ores et déjà, pour une boîte qui a quelques années seulement. Anthropic approche les 20 milliards.
45 milliards en base annuelle, Anthropic. 45 milliards, Raphaël. 45 milliards en
annuel.
Alors,
mes chiffres datent un peu. C'est peut-être il y a 6 mois, du coup, ça a doublé depuis. Ah, moi, j'avais 20 milliards. 45 milliards pour Anthropic. C'est vrai que Claude se déverse absolument de partout. Et l'annonce du nouveau Mythos limité, parce que trop puissant cette nuit, effectivement. Donc, c'est tangible derrière. Les investissements en data center, c'est de l'argent tangible. Les revenus, c'est tangible. C'est ça la grande différence, Louis Samuel?
Oui, c'est concret. Il y a une demande. Toutes les entreprises ont besoin de Claude, d'OpenAI. Ces outils sont utilisés. Ouais. Et donc, comme vous l'avez dit, 20, 45... Moi, j'avais un chiffre de l'ordre de 20 milliards, mais en effet, il ne devait
milliards.
Pas être actualisé non plus. Mais c'est un chiffre d'affaires tangible. Ouais. La valorisation est un peu élevée, mais ce n'est pas normal pour une entreprise qui a ce niveau de croissance.
C'est une promesse de révolution qu'on valorise.
Et exactement. Dans le cas de Tesla...
Une révolution crédible.
Musk, oui. Comme l'a dit très bien Sylvie, c'est... un tel génie qui vous fait miroiter de tels développements, que Tesla, ça a toujours été beaucoup trop cher en bourse. Ça n'a jamais eu un sens du point de vue de l'analyse financière classique. Mais est-ce que vous savez ce que vous auriez gagné si vous aviez pris du Tesla et que vous l'aviez gardé depuis?
Je ne veux pas
savoir. Et je ne l'ai pas fait.
Je ne veux pas savoir.
17,5% compounded. Donc, ça fait un multiple de, je sais pas, je n'ose même pas le calculer, de 200, 300. Ouais. Et c'est en permanence... Il va se passer quelque chose demain. Ouais. C'est-à-dire que, alors, c'est pas vrai parce que
le narratif est très important.
On a eu
aussi,
des Tesla.
Hein,
on a eu des Tesla, mais ouais. Finalement, BYD est arrivé. BYD vend autant de voitures électriques que Tesla, et donc Musk a déplacé le sujet vers les humanoïdes
et
vers le spécifique. Et en même temps, il fait des réalisations. C'est-à-dire qu'on vient de le dire, les satellites. Les deux tiers des satellites qui sont au-dessus de nos têtes, ils ont été
absolument,
envoyés par...
Absolument, et même un peu plus. Je crois que c'est 90% des lancements aujourd'hui.
Voilà.
Mon Dieu.
Et le fameux Airbus de l'espace, on a une très belle société dans l'espace, en Europe, mais enfin, on en envoie un tous les X temps.
On n'y est pas.
Je sais pas. Donc, donc il y a deux sujets. Il y a le sujet sur lequel on va venir, c'est comment est-ce que l'IA va se concrétiser dans notre vie. Mais il y a le deuxième qui est ces moments de bulle financière, et ces moments de bulle financière qu'on a vus à plusieurs fois dans l'histoire, celle de 2000, vous la citez, mais c'est celle des années 20 avant le krach de 29. Celle des années 20, c'était l'industrie automobile qui s'était mise au système de Ford avec une construction massive, c'était les radios, c'est-à-dire les médias, le cinéma, un certain nombre de nouvelles technologies qui ont changé le monde, qui ont provoqué une spéculation énorme. Et ça a claqué en 29 quand les taux d'intérêt ont trop monté. Donc c'est la conjugaison d'une spéculation trop forte et d'un mouvement sur les taux d'intérêt qui peut provoquer des cracks.
Ça ressemble un peu, hein. Il y a quelques similitudes.
C'est pour ça qu'on disait, c'est une quinzaine un peu dangereuse. Et le président de la Fed a intérêt à être incroyablement subtil dans son discours.
Bon, on va venir effectivement aux applications concrètes aussi de l'IA dans l'entreprise. C'est le sujet de tous les déjeuners. Il n'y a pas un déjeuner d'affaires qui se passe aujourd'hui sans que les uns les autres comparent l'application des différentes IA au sein de l'entreprise. Je voulais voir comment ça se passait chez vous. Votre expérience, Sylvie Cazenave-Perret. Ce que j'entends beaucoup, moi, aujourd'hui, c'est que 3 ans après l'apparition de ChatGPT dans nos vies, vraiment, on est en train d'implémenter ces systèmes dans les boîtes, mais on commence un peu à réfléchir sur le coût.
aussi de l'entreprise. Quel est le retour sur investissement?
Alors, c'est là où il faut être un petit peu, je pense, ingénieux. C'est comme à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive dans l'univers industriel, qui est le mien, en fait, elle est très coûteuse. Et donc, on est entraîné chez nous, c'est un cas personnel, on audite tous nos systèmes, tous nos process, et on étudie où l'IA va être le plus efficace, le plus rapidement, pour qu'on ait un taux de retour sur investissement le plus court possible pour vérifier ces applicatifs. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est fait. Donc on a des chantiers IA, chez nous absolument, sur toute la chaîne de production, que ce soit de la maintenance prédictive, c'est le plus facile aussi à partager, à comprendre. C'est, voilà, les machines, elles fonctionnent, mais comment on prévoit les prochaines pannes, etc. Là, à nouveau, c'est la collecte de data. Pour en revenir juste anecdotiquement sur Elon Musk, Tesla, pour lui, ça n'est plus une fabrication de véhicules, c'est de la collecte de data. Il considère que Tesla a apporté, avec l'historique qu'il a emmagasiné, la plus grosse banque de données de data au monde aujourd'hui dans ce business-là. Nous, à notre petit niveau, c'est exactement pareil. Collecte de data, nettoyage de data. L'IA, elle est rentrée un peu comme chez nous tous, alors évidemment avec ChatGPT, mais on ne peut pas se permettre dans les entreprises d'utiliser ChatGPT.
Oui, parce qu'il
nous faut un système sécure. Donc c'est ou Copilot ou Gemini, suivant. Mais observez bien, je ne parle pas de système français aujourd'hui, ou européen. Donc on y est rentré. Moi je me souviens, ça me paraît il y a très longtemps, mais c'est chez nous il y a seulement un an, où le responsable de SI chez nous dit on va prendre Copilot mais sur 2 ou 3 ordinateurs. On a dit en comité de direction absolument pas, tout le monde est équipé.
Oui.
C'est un petit peu, si vous voulez, je ne sais pas si vous vous souvenez au début des iPhones, il y a finalement pas si longtemps, on avait un petit bouquin. On nous donnait un petit bouquin pour apprendre à utiliser un iPhone. C'est pas votre génération.
C'était il y a 20 ans. Hein.
C'est la mienne. Mais on nous donnait un petit bouquin, comment utiliser l'iPhone. C'était du délire.
Oui.
Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu pareil. On nous a appris à prompter il y a un an, 12, 13, 14 mois à prompter. Maintenant, le prompt dans les demandes qu'on fait, ça s'est tellement vulgarisé qu'on n'a plus vraiment, évidemment, il faut savoir à peu près ce qu'on demande, mais n'importe qui à l'intérieur de l'entreprise est capable de développer, c'est intégré, c'est absolument excitant, ça plaît beaucoup aux collaborateurs. L'idée est toujours d'accompagner les collaborateurs pour ne pas qu'ils craignent la suppression de leur poste de travail.
Parce que
sinon,
il y a aussi beaucoup d'angoisse qui monte autour de l'IA.
Ce
qu'on appelle la job apocalypse.
Je pense que ça va nous permettre à nous, qui sommes contraints financièrement par les charges qui pèsent sur les entreprises et par un environnement économique anxiogène, eh bien, de retrouver de l'espoir. Et c'est exactement ce que je trouve qui se passe, parce que ça nous permet de décupler nos actions. C'est-à-dire que les actions de prospection, de commerce, d'efficacité, de compréhension de là où on a de la rentabilité, là où on a de la perte, on est au moins aussi agile qu'un grand groupe, alors qu'on est une PMI. Et ça, l'IA nous permet d'acquérir un pouvoir qu'on n'avait pas auparavant.
Est-ce que vous voyez les gains de productivité?
Alors, pas tout de suite. À certains endroits, je pourrais vous dire que oui. Mais je pense que ceux qui peuvent vous le garantir aujourd'hui, ils vous mentent un petit peu.
Ouais.
Je suis pas certaine qu'on les voit. Mais ça, c'est pas grave. On peut pas avoir des gains de productivité immédiats. Il faut investir dans la qualité des données qui permettent à l'IA d'effectuer le bon diagnostic chez nous. Nous, c'est ce à quoi on s'attache. Et je pense que le fait qu'on ait ces options d'améliorer notre compréhension du besoin de nos clients, du besoin de nos salariés, de l'efficacité sur l'entretien de nos machines, c'est un plus. Et je pense que ça fera une grande différence entre les entreprises qui s'y seront mises et celles qui n'auront pas voulu y aller.
Il est clair que l'IA, c'est à la fois une sorte d'exosquelette et d'exocerveau. Et que pour commencer, la première phase, c'est une augmentation très forte, comme ça vient d'être très bien décrit, des capacités d'analyse et d'aide à la décision. Par exemple, chez Montpensier-Arbevel, quel est notre métier ? C'est d'investir pour le compte de clients, qu'ils soient des clients privés ou des clients institutionnels. Comment est-ce qu'on investit ? C'est en analysant à la fois la marge de l'économie et la marge des entreprises. Et là, les possibilités que vous donne l'IA en termes de maximisation d'analyse sont absolument incroyables. Donc là, notre monde a changé. Est-ce que ça donne de la productivité tout de suite ? Pas forcément. Ça donne... Enfin, ça veut pas dire qu'on va diminuer le nombre de personnes. La productivité, elle se définit à la fois par le numérateur et le dénominateur. Donc oui, en capacité d'analyse, donc le numérateur devient très très fort. Ça veut pas dire qu'on va baisser le nombre de gens tout de suite. Donc vous avez pas un effet de compte d'exploitation instantané, mais vous avez une capacité de compréhension du monde, et pour l'investissement, c'est formidable. Après, ça se trouve, c'est limite, parce que tout le monde les a. Donc,
c'est ce qu'on teste en ce moment.
C'est un jeu de compétition.
Joue, hein.
Mais, et puis, ce qui est compliqué, c'est que c'est la rapidité d'évolution des nouveaux modèles. C'est-à-dire que le grand bouleversement, et c'est d'ailleurs là où le marché s'est réenvolé, c'est-à-dire qu'on avait OpenAI, chat depuis fin 22, il y avait eu quelques petites bullettes, et là, tout d'un coup, quand la version de Claude, d'Anthropic, le Claude, est sortie, on a vu le monde changer devant nos yeux, et on a fait comme Sylvie, on a équipé tout le monde, et c'est là où le marché s'est absolument volé. Donc Claude, c'était un projet.
Et là, on a Fable 5 qui arrive,
d'Anthropic. Et on va voir dans 3 mois s'il y aura comme nouveau modèle, on va voir si les Chinois, parce que vous avez évoqué le sujet du coût, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises disent, oh là, ça commence à me coûter très cher compte tenu de la consommation de tokens, donc je limite. Et donc, il va y avoir un combat, comme dans tout nouveau gâteau à conquérir, il va y avoir une concurrence. Et les Chinois, visiblement, ont une capacité à consommer, à être plus productifs dans l'utilisation de l'IA.
À faire moins cher.
Et s'ils vendent des nouveaux modèles, on aura ces effets de productivité rapide. Mais ça va être une série, les 3 années. Mmh. En tout cas, c'est passionnant pour notre génération de voir le monde de nouveau changer devant nos yeux.
Comment on mesure ces gains de productivité ? On ne les voit pas pour l'instant, hein, Louis-Samuel Pilser, mais... Bon, on peut se dire que ça va arriver, non ?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est au tout début d'une nouvelle révolution industrielle. En fait, les modèles d'il y a 3-4 ans, même ceux de l'année dernière, en fait, ne permettaient pas de réaliser les mêmes gains de productivité. Il y a quelques études, par exemple, sur l'application de l'IA au service public France Travail. Jusqu'à 2024, c'était 100 millions d'euros d'investissement dans l'IA. Et le retour sur investissement, les économies totales chiffrées par la Cour des comptes dans son rapport sur le sujet, c'est 120 millions. Donc en fait, le taux de retour sur investissement sur les précédentes générations de modèles était relativement modeste. Oui. Quand on utilise l'IA dans de grandes organisations, ça nécessite une réforme profonde de l'organisation. Et puis par ailleurs, en fait, les modèles d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Quand on regarde aujourd'hui l'intervention du patron de Mistral à l'Assemblée nationale,
Arthur Mensch,
10% de sa masse salariale, c'est le montant de la consommation de tokens. Donc on a disons que ça répond à de vrais besoins et ça représentera demain une forte part des dépenses des entreprises, notamment sur le code. Les études récentes montrent que pour un développeur informatique, on est 4 fois plus productif avec de l'IA, avec Claude Code ou l'outil analogue d'OpenAI que sans. Donc, c'est une augmentation de productivité très concrète et ça, aujourd'hui, il est impossible de faire du développement informatique sans ces outils. Et donc, demain, je pense que secteur par secteur, on va commencer à avoir des cas d'usage se développer et il faut être en avance sur cette révolution. On a raté la vague de la robotique. On a 3 à 4 fois moins de robots industriels qu'en Allemagne, 2 fois moins qu'en Italie. Je pense qu'il faut qu'on soit devant sur la nouvelle révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle et de son implémentation.
Et pardon, pour l'instant, on est toujours derrière, non ? On est derrière les États-Unis.
Oui. Et d'ailleurs, c'est un bon sujet parce que ça va être la conjonction des deux. Schwarzman, qui est le patron de Blackstone, disait « J'ai jamais tellement cru aux robots, mais maintenant qu'il y a l'IA, on va avoir cette accélération de la robotique simultanément. » Et là, j'étais en train de regarder une étude. Le grand sujet, c'est 29. C'est-à-dire que c'est cap 29 pour savoir si le monde aura complètement changé.
Ça va 29, 2029.
2029.
En 2029, tout change.
C'est le débat. Est-ce que ce sera, comme toute nouvelle invention très forte, est-ce que ce sera comme le chemin de fer qui, tout d'un coup, a rapproché le monde en 2 minutes ? Ça, c'était la comparaison du chemin de fer, elle est un peu avec Internet. C'est-à-dire qu'on, tout d'un coup, avant
le monde se rétrécit.
Avant le Internet et avant le mobile, le téléphone mobile, le monde est élargi. Alors que maintenant, on est une seule communauté mondiale. Donc, le chemin de fer, ça ressemble à ça. L'IA, c'est plus difficile de comparer. Ça ressemble à la machine à vapeur. Ça ressemble aux machines, à des progrès de la chimie, si j'ose dire, où tout d'un coup, on a fait des nouveaux matériaux. C'est plus difficile à analyser comme comparaison. Et donc, tout le débat est-ce que ça va être modéré, donc 1% de productivité, et puis pas plus, ou est-ce que tout d'un coup, il va y avoir un espèce de jump à partir de 29h30, où on ne sera plus dans le même monde.
Le leapfrogging, ça s'appelle en anglais. Est-ce qu'on va avoir des robots humanoïdes dopés à l'IA bientôt chez Pau, son packaging?
On a des robots, on a pas mal de robots dans notre entreprise, mais justement, un robot, c'est assez bête, en fait, et c'est, il reproduit toujours le même... Le même schéma de travail, il aide les opérateurs, mais s'il y a un souci,
ça bug.
Il va falloir le reprogrammer. Tout ça, c'est assez lourd en gestion. Or, justement, je partage vraiment, merci encore pour votre analyse, ce point de vue, parce que l'IA emportée dans les robots, ça va nous permettre de rendre les robots apprenants. Et ça, c'est formidable pour nous.
C'est la fin de l'humain, surtout. Sylvie, vous nous dites que l'humain est plus agile qu'un robot qui demande beaucoup de maintenance.
Non, alors je ne pense pas du tout que c'est la fin de l'humain.
Ça ne va pas durer très longtemps.
Je pense que, vous savez, on a des vrais sujets de pénibilité dans nos entreprises industrielles. C'est un axe majeur pour nous de prévention des risques, santé, sécurité au travail. On ne peut pas... On parlait tout à l'heure, vous savez, dans la première partie de ce plateau, on parlait des déficits.
Oui.
On sait, même si on n'est jamais d'accord sur ce diagnostic, qu'on va devoir, nos populations vont devoir travailler plus longtemps. Si on veut travailler plus longtemps, il faut que le travail soit
supportable.
Et les robots humanoïdes, éventuellement, vont rendre ce travail supportable. Il y a une différence entre ce qu'on voit chez Renault et puis une entreprise telle que la nôtre, où tous les modèles sont différents et rendent le travail très difficile aux robots. Donc je pense que ça, c'est un vrai espoir. On parle de
les robots à l'aide de la réforme des retraites,
et de réindustrialisation du pays avec plus d'intelligence emportée, embarquée dans nos entreprises. Maintenant, on a l'impact CO2. Nous, nos bilans carbone qu'on entasse d'année en année, on le calcule pas. Je vous le dis franchement, on ne sait pas calculer tout de suite l'impact de ce qu'on développe au niveau IA au sein de l'entreprise en termes de CO2, mais il va falloir qu'on s'y attelle. Et ça, c'est un risque aussi qui pèse sur cette appropriation de technologie.
Non mais...
30 secondes, Guillaume.
Vous voulez un peu d'inquiétude pour conclure. Ce que je trouve incroyable, et on en a parlé, Raphaël...
Pas forcément, une note d'optimisme, c'est bien.
C'est l'initiative de Milei en Argentine qui est très intéressante et incroyablement disruptive. C'est de dire on pourrait créer des sociétés anonymes qui, au lieu d'appartenir à des personnes, enfin d'être dirigées par des personnes, seraient dirigées par une IA. Et là, c'est un changement absolument considérable parce que d'ailleurs, on sait que l'IA est assez tricheuse. C'est-à-dire que l'IA est tricheuse et que donc là, ce serait un changement de civilisationnel complet. Vous imaginez la société... Il y a d'ailleurs un jeu qui est assez amusant où il y a un concours entre IA et on leur dit essaye de fabriquer le maximum de trombones et à la fin, elle peuple l'univers de trombones. Donc, on est face à des changements conceptuels qui ressemblent à celles au moment où, avec la Compagnie des Indes, tout d'un coup, la Hollande a conquis le monde entier avant que ce soit les Anglais avec leur Compagnie des Indes à eux.
C'est absolument passionnant et vivifiant, moi, je trouve, pour l'avenir et ça promet plein de futurs. Futur débat géniaux. Merci tous les trois, Sylvie Cazenave-Perret, Guillaume Dard et Louis-Samuel Pilser pour cette émission que vous pouvez retrouver en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spécial croissance animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.